est numéré.
18 personnes en attente.
Moi, je dis, on devrait rester comme ça une demi-heure, oui, juste pour...
Dont deux hamsters.
Pas 30. Tant qu'on n'est pas 30, on lance pas. Faut se faire désirer, Thomas.
50.
Ah, c'est... Commence bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode 5 des Petites Causeries du Numérique avec un thème aujourd'hui un petit peu particulier puisqu'on a décidé d'aborder... un sujet assez sensible, à savoir l'exposition précoce au contenu pornographique en ligne chez les enfants, avec un titre de l'émission qui s'appelle donc SOS, mon enfant est tombé sur du porno, je fais quoi? Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui pour cette émission par deux expertes du sujet, en l'occurrence Claude Giordanella qui est sexologue et qui travaille également dans une association qui s'appelle l'Institut Charonne, et qui fait une consulte sexo, notamment, je te laisserai te présenter Claude, auprès des adolescents sur ces sujets un petit peu compliqués parfois, et également Céline Tran, coach en bien-être et sexualité, qu'on ne présente plus tellement tu inondes les réseaux sociaux de ta présence.
C'est confinement.
Confinement oblige, exactement, et qui nous fait le plaisir et la gentillesse et l'amitié d'être présente. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle à ceux qui sont présents que vous avez pour poser vos questions un chat à votre disposition avec Fanny qui est à la manœuvre et qui vous pourra modérer le chat et essayer de vous accompagner dans les questions que vous souhaitez nous poser. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec déjà un rappel de quelques chiffres, hein, ça me semble important, étant donné que l'Open, l'association que j'ai la chance de présider est un peu en pointe sur ces sujets. Nous avions lancé une grande enquête avec l'IFOP il y a de ça quelques années maintenant et qui montrait qu'en fin de compte, 53% des adolescents âgés de 15 à 17 ans sont tombés dans leur jeunesse par inadvertance sur ces contenus pornographiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas souhaité aller chercher les images. Avec toujours un gap très important en termes de consommation de pornographie entre les filles et les garçons, avec une majorité de garçons qui consomment la pornographie. Et également un âge, alors ça c'est pas dans notre étude, c'est dans une autre étude, puisque l'âge de l'exposition ne cesse de rajeunir et on serait en moyenne maintenant, selon les dernières études publiées, autour de 11 ans. 11 ans en France. Donc voilà. Voilà pour le décor, si je puis dire, et je laisse la parole à Claude pour que tu te présentes un petit peu, et puis après ça, on va dialoguer un peu sur deux, trois questions que j'avais à te poser. Donc si tu peux juste nous rappeler ce que tu fais, notamment à Charonne et ailleurs, et pourquoi tu es là en fait.
Très bien, bonjour. Donc moi je suis sexologue, donc un sexologue classiquement, fait de l'accompagnement de la santé sexuelle des gens de manière clinique, et puis aussi fait de la formation pour les professionnels, pour accompagner aussi les gens, les jeunes, les enfants, les ados, jusqu'aux personnes âgées, puisque la sexualité, c'est toute la vie. Donc, on travaille sur toute la vie. Voilà. Donc, moi, spécifiquement, c'est vrai que j'ai une mission particulière à l'association Charonne, Opelia, en Ile-de-France, où j'accompagne les jeunes ados, ceux qui prennent plus particulièrement des risques sexuels et ceux qui prennent des risques notamment dans le cadre de la prostitution, souvent, enfin ce qu'on appelle le michetonnage, l'escorting. Et donc j'accompagne ces jeunes pour essayer de repenser un peu leur sexualité qui est à risque pour tenter de voir avec eux comment on peut diminuer les risques de cette sexualité.
C'est vrai que tu es plutôt spécialisée dans l'accompagnement des conduites à risque autour de la sexualité. Et heureusement, tous les ados n'ont pas, c'est important de le rappeler, n'ont pas ce rapport à la sexualité qui forcément les met en danger. J'avais, du coup, merci pour cette présentation, deux petites questions pour commencer, Claude. La première, et c'est une question que se posent beaucoup de parents, notamment dans le fait que tu croises beaucoup d'ados. Que penses-tu aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui, il est possible d'éviter que son enfant soit exposé à de la pornographie en ligne? Oui ou non? Allez, on se dit les choses franchement.
Alors, à condition qu'ils vivent dans une grotte sans réseau, sans internet, sans téléphone, sans rien, j'ai des doutes sur le fait de ne pas croiser un jour le chemin de la, enfin, des images pornographiques. Et puis bon, on sait aussi qu'il y a différentes façons de penser la pornographie, de voir ce qui est pornographie. Donc c'est vrai que les jeunes, ça relève un peu du miracle aujourd'hui si les ados ne croisent pas de pornographie. C'est vrai que les jeunes que moi je peux rencontrer utilisent beaucoup la pornographie, mais ce sont des jeunes un peu spécifiques et on peut dire que globalement, les ados qui regardent de la pornographie, on est un peu sur deux types d'ados. On a les ados qui sont tombés sur des images porno par hasard, hein, parce qu'ils cherchaient autre chose, un exposé à faire sur Internet et puis... des images ont apparu et voilà, et ils sont allés fouiller un peu parce que on est très curieux à l'adolescence et tant mieux de cette curiosité. Voilà. Et puis il y a les ados qui cherchent spécifiquement de la pornographie, des images porno, parce qu'ils cherchent particulièrement à répondre à des questions qu'ils se posent. On rappelle que l'adolescence et la puberté, c'est un corps nouveau, c'est un corps qui titille un peu, pour le dire un peu gentiment. C'est un corps qui exulte aussi, qui s'excite, et on n'y comprend pas toujours grand-chose. Donc des fois, quand on n'a pas les réponses à ces questions particulières, on va les chercher là où on peut. Et aujourd'hui, avec évidemment avec les réseaux, avec le téléphone et avec les tas d'outils techniques, et bien les ados vont les chercher là où ils sont très habitués à aller, c'est-à-dire sur les sites, sur les réseaux.
On n'a pas les réponses ou les adultes ne nous les donnent pas?
Alors, quand je dis on n'a pas les réponses, c'est parce que souvent les adultes ne nous les ont pas données, clairement. Soit parce que dans la famille, ça, c'est pas possible, parce qu'il y a des prescriptions, il y a des contraintes, il y a des façons d'être qui ne permettent pas d'aborder le thème de la sexualité. Soit parce que les professionnels sont souvent assez mal formés et du coup ne répondent pas clairement aux questions que se posent les ados ou que posent les ados. C'est vrai que...
Et on rappelle que ce sont des questions légitimes.
Complètement. Mais elles peuvent paraître arrogantes et elles résonnent beaucoup sur la propre sexualité des adultes qui sont en face. Donc, ce n'est pas toujours évident quand on n'est pas formé, quand on n'est pas accompagné, de pouvoir répondre de manière assez simple, apaisée, aux questionnements des ados.
Donc, justement, ça, on avait reçu une question en préparant l'émission d'une maman qui nous demandait comment faire en sorte que ça n'arrive pas trop tôt, en fait, puisqu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est assez compliqué d'éviter, à moins de vivre au fin fond d'une grotte ou sur une île déserte, d'éviter que son enfant ou son adolescent soit exposé de manière, on va dire, plutôt par inadvertance à la pornographie sur Internet, en ligne. Comment faire pour éviter que ça n'arrive trop tôt? Parce que je suppose qu'il y a quand même une différence d'impact en fonction de l'âge auquel on est exposé pour la première fois.
Alors, bien évidemment que plus on est exposé tard, mieux c'est, on va dire très clairement. Hein. Tout ça pour des raisons assez simples de construction d'adolescent. C'est-à-dire que quand on est un jeune ado, quand on démarre sa puberté, on a une construction de son corps qui continue, bien évidemment, mais on a aussi, surtout dans notre cerveau, des zones qui ne sont pas encore tout à fait bien construites et qui ne nous permettent pas de faire des analyses au même titre que les adultes. Donc, on ne peut pas se décaler par rapport aux images qu'on voit, qui peuvent nous interpeller, qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous exciter, qui peuvent nous faire soit du bien, mais aussi du mal. Donc, plus... On les voit tardivement, ces images, plus on sera un ado un peu construit, donc moins elles auront d'impact. Et c'est vrai que quand on a 12, 11, 12 ans, on est un très jeune ado. Et c'est un peu plus compliqué, on est un peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Et on reçoit ces images sans forcément avoir cette capacité à dire ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Donc c'est important. Après,
du coup, le rôle des parents par rapport à ça, sur les tout petits notamment, puisqu'on est d'accord pour dire que c'est quasiment impossible qu'ils ne tombent pas sur ces contenus, le rôle des parents, quel est-il? C'est de plutôt de faire passer le message que le risque zéro n'existe pas et de... Parce que moi, j'ai des... à l'époque où j'allais beaucoup dans les établissements scolaires, j'ai souvenir que d'avoir déjà croisé des très jeunes enfants, et je sais que tu en croises parce que tu donnes des cours, mais en tout cas, tu fais des sessions de sensibilisation en maternelle, je crois, auprès de très jeunes enfants à l'éducation sexuelle. Et moi, je me souviens notamment d'une petite fille qui était en CM1 qui m'avait dit qu'elle était tombée sur ce type de contenu, mais qu'elle n'en avait pas parlé aux adultes et que du coup, elle n'avait pas vraiment bien dormi pendant plus de 3 semaines.
Ben c'est tout le problème. C'est-à-dire, effectivement, moi, je fais de l'éducation à la sexualité dès la maternelle parce que je pense que la sexualité, c'est dès qu'on est né, un petit peu même avant, dans le ventre de sa mère, mais on va dire que la sexualité, c'est toute la vie. Donc, l'idée de faire de l'éducation à la sexualité, parce que ça, c'est, tranquillement, ça s'éduque, de faire de l'éducation, c'est aussi permettre à tous ces enfants de se construire dans un cadre un peu apaisé, y compris quand ils croisent des images qui ne sont pas destinées à leur âge et qui ne sont pas destinées à être décodées à leur âge. Et la porno en fait partie de ces images. C'est vrai que quand on est un enfant, si on a un espace de parole à la maison, si on parle de la sexualité à la maison ou à l'école, claire, parce que ce n'est pas toujours simple, mais au moins à l'école, qu'on ait un lieu quelque part où on en parle, eh bien, du coup, on pourra dire ce qui nous a heurté, ce qui nous a plu, ce qui ne nous a pas plu, ce qui nous a interrogé, et on pourra tenter de décoder les images qu'on a vues. Et dans ces cas-là, il y aura assez peu d'impact sur la suite, quoi. On va plutôt prendre confiance aux adultes qui expliquent, qui décodent et qui nous aident. Et du coup, les insomnies, elles ne devraient pas trop arriver.
Donc, en résumé, pour les parents qui nous écoutent, essayez d'expliquer avec des mots simples et adaptés à l'âge de l'enfant qu'en effet, il est possible d'un jour de tomber sur ce genre de contenu et que dans ce cas-là, il ne faut pas culpabiliser et au contraire, il faut pouvoir...
Ne pas anticiper non plus des questions qui ne viendraient pas. Parce que c'est toute la période de la petite enfance et de l'enfance, on est vraiment sur des choses à l'instant présent, j'allais dire. Et ne pas anticiper des questions qui ne viendraient pas de la part de l'enfant. Par contre, répondre clairement, simplement, avec des messages très clairs aux questions qu'il se pose, s'il a été confronté à des images qui l'ont interpellé, c'est le meilleur accompagnement, on va dire. Et on n'est pas obligé du coup de dramatiser, d'hurler, de paniquer, mais simplement d'aider, d'accompagner, tout simplement.
Merci pour ces réponses très précises, Claude. Je propose de passer la parole à Céline Tran.
Merci.
Qui nous fait le plaisir d'être avec nous une fois encore. Alors Céline, on va pas tromper les gens, hein, on se connaît un petit peu, on a déjà l'occasion, on va dire, de travailler ensemble sur ces sujets un petit peu délicats et de réfléchir aussi ensemble. On a animé un certain nombre de conférences et on réfléchit à tout un tas d'autres choses. Et j'en profite pour te remercier également du soutien que tu apportes à l'association depuis déjà plus de 2 ans. Donc, un grand merci. Du coup, peut-être peux-tu un petit peu nous reparler... Pourquoi ce soutien, pourquoi ce sujet te touche particulièrement et...
Alors, tout d'abord, merci hein, Claude pour ces paroles auxquelles j'adhère complètement. Donc, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour en parler davantage. En ce qui me concerne, donc, je m'appelle Céline Tran. Je suis actuellement coach en bien-être et en sexualité. C'est le terme que j'utilise puisque je ne suis pas formée donc en psychologie ou en psychiatrie. En revanche, je suis formée en hypnose, donc ça fait partie de mes compétences d'accompagner les gens, hommes, femmes, couples, dans leurs problématiques, dans leur rapport au corps et leur sexualité. Et pourquoi la sexualité ? Parce que j'ai une expérience de terrain, on peut dire ça, puisque je suis une ancienne travailleuse du sexe. J'ai été actrice X durant 13 années sous le pseudonyme Katsuni. Et j'ai arrêté il y a déjà 7 ans, donc c'est quand même bien de le préciser parce qu'avec Internet, il y a un rapport au temps qui est complètement déformé et certaines se disent « mais comment ça, une actrice porno, mais comment ose-t-elle donner des conseils ?» Alors j'ai pris du recul, j'ai grandi, je ne suis pas en train de renier ce passé-là, je suis en train de m'en servir tout simplement pour comme une expérience qui me permet d'aborder la sexualité à ma manière, en complément justement des personnes qui sont... spécialisés, enfin voilà, les psychologues et les psys. Donc je suis dans l'ordre du conseil surtout et dans l'accompagnement avec l'hypnose. Cette notion de prévention me touche particulièrement parce que moi j'ai mis du temps en fait justement à comprendre l'impact des vidéos que j'avais pu dans lesquelles j'avais pu tourner. J'étais en immersion dans ce milieu-là. Moi ça a été un choix. J'ai vécu ce choix pleinement. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir clairement. Mais c'est vrai que j'étais vraiment dans l'expérience et le ressenti. Et clairement, je vais être honnête, la partie image, le rendu en vidéo ne m'intéressait pas plus que ça. C'est-à-dire que j'ai rarement regardé mes films. Je les regardais de temps en temps quand c'était un peu artistique, un peu joli, mais plus pour la partie non explicite. Et le peu de fois où j'ai pu regarder la partie explicite, clairement, je trouvais ça pas terrible. Je trouvais ça rarement joli. Ça m'est même arrivé aussi d'être déçue et d'être un peu, d'être un peu dérangée par ce que je voyais, parce que j'ai pu vivre des scènes de manière très positive. Mais sauf que le rendu n'est pas, il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. J'ai vécu ma carrière pleinement, j'ai fini par arrêter parce que j'avais tout simplement envie de passer à autre chose. Et puis cette conscience justement de l'impact de cette image sur le public finalement a émergé. J'ai vu mes neveux grandir autour de moi, aujourd'hui ils sont ados. Et j'ai commencé à me questionner. Au long de ma carrière, pas mal de gens m'ont contacté pour me poser des questions, pour me remercier. Mais certains aussi arrivaient avec des questions liées à des complexes nés de visionnage de films X, de choses qui n'étaient pas claires. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il était finalement assez urgent de communiquer là-dessus, non pas pour dénigrer le porno, mais pour proposer une prise de recul, un décryptage, et de bien montrer la différence justement entre une sexualité, alors normale ça veut pas dire grand chose, mais la sexualité réelle, et puis celle qui est mise en scène dans les films X, puisque même si on est dans des vidéos parfois dans un style amateur, on est quand même dans dans la construction d'une image qui est faite pour exciter. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés du coup, puisque j'avais tourné une vidéo qui est toujours en ligne sur YouTube de prévention, où j'expose la différence, les différences principales entre porno versus réalité. Et alors, justement, j'ai été contactée du coup à ce niveau-là.
Justement, Céline, qu'est-ce qu'Internet a un petit peu changé en fait dans la facilité d'accès à ces contenus ? Alors, on ne va pas faire l'histoire des tubes, ouais. Hein, parce que c'est un peu long et on le fait en conférence, donc c'est pas l'endroit là. Mais néanmoins, est-ce que toi, tu as remarqué un changement entre avant et après l'arrivée d'Internet et la manière dont ces contenus sont distribués ? En quelques mots, s'il te plaît, parce que le temps passe très vite.
Oui. Alors, je vais résumer. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, j'étais encore dans l'ère de la cassette VHS et des sex shops où le X était vraiment exclusivement réservé à un public adulte consentant dans la recherche de ce type de vidéo. Et puis, l'arrivée d'Internet a complètement changé la donne, non seulement dans l'accès, puisque aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est très facile, quel que soit son âge, d'accéder à des images pornographiques et de tout genre, parce que la pornographie, c'est très vaste. Hein, il n'y a pas que de la brutalité et des situations humiliantes pour la femme, mais voilà, en tout cas il est très facile de tomber sur de tout et surtout de manière gratuite, sachant que de plus en plus d'ados et voire même d'enfants ont à disposition un smartphone. Il est très facile aujourd'hui d'avoir accès à ça, alors qu'auparavant il fallait faire une démarche, il fallait payer, il fallait faire une démarche physique pour aller dans un lieu qui proposait ce type de contenu. Aujourd'hui, sans même l'avoir demandé, on peut accéder à ce type de contenu là en permanence. Donc ça change la donne dans les productions aussi, ça a changé la donne au niveau de la qualité des films X. À partir du moment où on est rentré sur l'ère d'Internet, on est un peu rentré dans l'ère du fast-food du porno. C'est-à-dire qu'avant, on avait des productions soignées, scénarisées, avec du budget. Et puis, on est parti dans une industrie où il faut alimenter le trafic, il faut générer du clic et donc chercher le produit rentable. Et donc, rien de plus rentable que de tourner tourner une scène sans scénario, de manière, on appelle ça les gonzos.
Donc de manière, en fait, ça a fait naître en fait, l'arrivée d'Internet, et c'est peut-être l'information primordiale à retenir, c'est que, outre la facilité d'accès, ça a aussi eu un impact sur les contenus, la manière dont
sur leur qualité aussi.
Sur leur qualité, et qu'aujourd'hui, on a quand même une espèce de comme tu dis, de fast-food qui fait qu'il y a quand même une qualité qui va plutôt vers le bas.
Sur des pratiques sexuelles plutôt que sur la construction, en fait, du désir à travers une histoire. Donc,
d'où,
ça segmente.
D'où l'impact plutôt négatif que ça peut avoir sur des êtres en construction, dans la mesure où toutes ces scènes sont complètement déconnectées de la rencontre, d'une contextualisation qui peut aider à mieux les comprendre et comment les choses évoluent. Petite question, parce que ça n'aura échappé à personne, tu es une femme. est-ce que selon toi...
Il y en a qui en doutent, apparemment.
J'ai vu qu'il y avait deux questions, on va répondre aux questions, ne vous inquiétez pas, mais merci à ceux qui nous suivent en live, on va y répondre, et oui, Héloïse, on pourra vous donner le lien après l'émission du sondage que j'évoquais tout à l'heure, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site de l'Open, mais est-ce que selon toi, aujourd'hui, en 2020, quand on a 15 ans et qu'on est une jeune fille, est-ce que c'est compliqué de gérer son image avec la partie féminité qui va avec, mais où est-ce qu'on met la ligne, jusqu'où on va, on sait très bien, tous les parents qui nous écoutent le savent pertinemment, c'est l'ère du selfie et compagnie et des autres filtres qui sont utilisés partout sur tous ces logiciels. Comment on gère son image aujourd'hui quand on a 15 ans et qu'on est une jeune fille ? Est-ce que c'est risqué en fait d'être sur les réseaux sociaux tout simplement ?
Mais complètement, mais déjà le fait même de se poser la question de la gestion de l'image, quoi. Normalement, c'est une question qui il y a encore quelques années ne touchait que les personnalités publiques, les acteurs, les personnes qui sont dans le monde du spectacle et qui décident de s'exposer. Aujourd'hui, c'est une question qui nous concerne tous à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux. Et comme l'a dit Claude, le souci c'est qu'à l'adolescence, on se construit, on se cherche, on teste aussi. Et il est absolument normal qu'une jeune fille teste son pouvoir de séduction parce qu'elle se découvre, elle est en train aussi d'affiner son rapport aux autres. Et ça peut passer parfois par l'envie de séduire, sans forcément être vraiment consciente des conséquences et surtout de ce que ça peut réveiller comme désir et éventuellement comme frustration face à un public qui, pour le coup, peut être aussi de tout âge. Donc, c'est très délicat et c'est très délicat aussi pour les parents de mettre un stop, puisqu'il est normal, en fait, que les ados explorent leur corps et donc aussi leur image. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire de la prévention sur, effectivement, les conséquences de la diffusion de cette image et du fait qu'à partir du moment où on poste quelque chose de soi, ça ne nous appartient plus. Cette image, elle peut, ou cette vidéo peut circuler, peut être transformée, et donc il faut vraiment dans l'éducation, je sais que c'est pas simple, mais responsabiliser un maximum l'enfant. Le responsabiliser, c'est aussi lui donner cette liberté d'ailleurs de s'exprimer, mais en le ramenant aux conséquences et aux risques. As-tu vraiment envie que un inconnu puisse regarder ses contenus, que ses vidéos puissent circuler peut-être dans ta classe. Donc voilà, mettre vraiment beaucoup de vigilance par rapport à la diffusion de ces contenus. Parce qu'on le sait, après, il peut y avoir du harcèlement et ça peut complètement dégénérer.
Il y a Eddy, qui est coordinateur des promeneurs du net, qui nous pose une question sur le chat et qui dit « Vous parlez de l'accès des images sur le net, mais il y a aussi des envois d'images directement dans les messageries des ados, comme les dick pics par exemple, donc qui sont des photos en fait de sexe en érection que les garçons en général aiment bien envoyer. » C'est vrai que aujourd'hui, on entend de plus en plus souvent parler sur Instagram, notamment de jeunes filles qui se retrouvent exposées à ces contenus que des garçons leur envoient sans même qu'elles les aient sollicités. Est-ce que c'est quelque chose dont on te parle ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu...
Ça, normalement, c'est quelque chose que vivent les actrices X, pour le coup. C'est pas parce qu'on est actrice X, d'ailleurs, qu'on devrait nécessairement recevoir ce type de contenu, parce qu'il y a un temps pour tout. Et moi, je pense que vraiment, il faut pas hésiter, en fait, à comment dire, à créer des sanctions pour ces ados-là, hein, parce que il y a quand même une intolérance qui est constatable face aux filles qui, elles, vont avoir du contenu qui va s'échapper, et là, donc, ça va tout de suite, on va être dans l'archétype de, ah, ça y est, c'est la chaude de service, et elle va tout de suite être jugée vis-à-vis de ça. Quand il s'agit des garçons, on a l'impression qu'il y a une forme de fierté à s'exhiber, qu'après tout, c'est un acte viril que de montrer son sexe en érection. Je pense qu'il ne faut pas laisser passer, parce que c'est une forme de harcèlement, parce que c'est une forme d'agression, en fait. Il ne s'agit pas de créer un tabou autour de son corps et des parties génitales. C'est très bien d'être à l'aise avec son corps, mais encore une fois, c'est toujours une question du moment, du lieu, et à qui on s'expose. Et s'exposer de cette manière à quelqu'un qui ne l'a pas choisi, c'est une forme d'agression. Donc, après, reste à savoir comment remonter.
Oui, Ludivine, qui est sur le chat, parle même de chantage.
Oui.
Elle évoque le fait qu'aujourd'hui, maintenant, on est passé un peu du stade de la rumeur au stade du chantage, maintenant, par le biais de ces, entre guillemets, photos qui ne sont pas désirées. Mais ce qui renvoie, et on est tout à fait d'accord, un peu à questionner la notion d'identité, d'identité à l'heure du numérique, mais on ne va pas faire un cours de sociologie, on pourrait tenir des heures.
En tout cas, la sensibilisation, il me semble, sensibiliser, en parler dès le collège, et probablement avant aussi, par rapport au consentement de manière générale. Encore une fois, il faut toujours s'adapter à l'âge, hein. Mais je pense que c'est essentiel d'en parler dans les établissements scolaires pour pouvoir justement éviter le tabou et que des élèves se retrouvent en posture de chantage. Et il faut pouvoir créer un espace de parole autour de ça.
Oui, tout à fait. On a reçu des questions, et là, du coup, je m'adresse aux deux, pour la préparation de cette émission, et notamment une maman qui a un garçon de 12 ans et qui nous dit qu'elle a découvert que son fils regardait de temps en temps des vidéos porno, mais comme il ne lui en a pas parlé, elle ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait, elle l'a découvert, on se doute un petit peu comment, vraisemblablement en allant fouiller dans son téléphone, et si elle doit prendre l'initiative de le faire ou pas. Claude, qu'en penses-tu ?
Alors, effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des informations, d'abord, qu'on a soutirées de manière un peu secrète, hein, c'est-à-dire qu'on est allé fouiller dans l'intimité du jeune homme. Donc c'est compliqué, ça veut dire que la notion d'intimité, il faut peut-être la revoir ensemble, parce que il y a quelque chose à travailler autour de cette notion d'intimité, d'une part. Mais d'autre part, l'idée, c'est pas non plus de laisser gamberger et la maman d'un côté et le jeune homme qui a peut-être des questions mais qui n'ose pas en parler de l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des médias qui sont pas tout à fait connotés pornographiques, mais qui peuvent permettre de lancer des thématiques, de lancer des sujets. Je crois que si on regarde un petit peu toutes les téléréalités, toutes les choses comme ça, on peut y trouver, ce n'est pas absolument pas qualifié de porno, mais on peut y trouver des questions qui vont peut-être amener la discussion autour de « oui, mais est-ce qu'on se déshabille si facilement ? Est-ce qu'on montre que des parties de son corps ? Est-ce que c'est morcelé ? Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que ça excite ? Est-ce que ça excite pas ? Est-ce que ça choque ? Est-ce que ça choque pas ?» Et je crois qu'à travers ça, on peut aller jusqu'à parler tout doucement après et jusqu'à la porno. Et la porno, tu crois que ce serait ça aussi ? Moi, je pense que c'est intéressant de progresser, donc il faut prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence, c'est pas tout dans une même soirée parce qu'on a découvert des images porno dans le téléphone où d'un seul coup, c'est haro sur le jeune homme après son devoir de maths. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Et surtout, on s'apaise et on en parle de manière apaisée pour ne pas fermer les portes qu'on risque de fermer en se fâchant, en s'énervant, en dramatisant. Si on en parle, c'est pas si dramatique, quoi. Il y a plein de jeunes qui, très bien étayés, ont vu des images porno et sont devenus des jeunes adultes et ont une sexualité totalement épanouie et une vie épanouie et basta. L'idée, c'est vraiment de parler. Mais il y a beaucoup de médias. Puis il y a des brochures, hein. Il y a aussi des tas de petits bouquins qui permettent d'aborder le sujet de la sexualité quand on est ado. Donc on peut les laisser dans la chambre, dans le salon, sur la table du salon ou dans la salle de bain pour aborder cette notion de la sexualité qui va permettre d'aborder doucement le thème de la porno. Mais on ne va pas y aller franco.
Parce que là, je vois des questions qui passent sur le chat. Quel est le rôle de l'école dans tout ça? Puisque Sébastien nous dit que notamment avoir accès à une conseillère de sexualité dans les collèges, est-ce que ce ne serait pas une bonne avancée? En effet, c'est important de rappeler qu'il y a des textes de loi en France et c'est bien là qu'est le problème, c'est qu'ils ne sont pas appliqués en dépit des belles annonces ministérielles. C'est toujours pas appliqué. Les cours à l'éducation sexuelle sont quasi inexistants, ou en tout cas de manière très inéquitable sur l'échelle du territoire. Et donc, y a un vrai souci par rapport à ça, parce que c'est vrai que les parents ne sont pas toujours à l'aise avec le sujet et on doit le respecter aussi. Parce que s'il y a un sujet sur lequel il faut faire attention, c'est celui-là. Il vaut mieux pas faire que mal faire, me semble-t-il.
Voilà, parce que quand on parle de sexualité à des jeunes, l'idée, c'est de faire le moins de mal possible et de ne pas dépasser des messages qu'ils ne voudraient pas entendre. Donc, de bien tenir compte aussi de leur âge, de leur niveau d'acquisition, de leurs compétences et d'aller doucement. On ne va pas tout balancer d'un seul coup. Alors, c'est vrai que quand ça ne peut pas se faire à la maison, L'idéal, ce serait ces fameuses 3 séances d'éducation à la sexualité par an pour chaque élève. Sauf que comme elles n'existent pas, c'est un peu complexe. Ceci dit, le mieux pourrait être de former au mieux les personnels de l'éducation nationale au sens large. C'est-à-dire qu'on peut former les infirmières scolaires, on peut former les assistantes sociales, on peut former les CPE, mais on peut former aussi des profs qui se sentent complètement investis du sujet et qui peuvent être à un moment donné des référents et des accompagnants pour leurs élèves et leur apporter peut-être des éclairages et des ressources. On a aussi les centres de planification et le planning familial qui sont aussi des lieux qui rentrent dans les collèges et qui peuvent apporter des informations et qui peuvent être des lieux ressources ou des référents pour que les jeunes puissent aller poser leurs questions. Alors, ce n'est pas encore suffisamment bien étayé partout. Je te rejoins, hein, Thomas, il y a des vraies différences de territoire. Et c'est bien dommage, mais je pense qu'il faut une vraie volonté politique pour que ce travail se construise au mieux de plus en plus. Alors, je crois que pour l'instant, l'éducation nationale, c'est un peu une parenthèse. Donc, on va peut-être reprendre les sujets à la rentrée. Mais je pense qu'il ne faudra pas oublier. Il ne faut pas que ça passe à la trappe, quoi. C'est hyper important de faire des adultes épanouis. Et on s'épanouit dans sa santé, mais dans sa santé globale. Et la santé sexuelle fait partie de la santé globale. Donc, c'est important.
Et c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Et je pense que Céline, on voit quand on fait des conférences ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, en tout cas, le constat que je fais, mais je ne sais pas si vous le partagez, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est extrêmement difficile et c'est très regrettable de parler de sexualité de manière apaisée dans ce pays en 2020. Est-ce que le problème ne vient pas de là? Parce qu'en fin de compte, les adultes, c'est comme le rappelle Ludivine, et c'est en gros ce qu'on vient de sur le chat, et c'est en gros ce qu'on vient de dire. Les adultes, notamment les parents, surtout les parents, ne sont pas forcément les mieux placés pour parler de ce genre de sujet. En tout cas, il ne faut pas qu'ils le vivent comme étant une injonction. Qu'est-ce que tu penses de cette situation?
C'est normal qu'ils ne soient pas les mieux placés, mais après, effectivement, quand on parle de sexualité, pour certains, c'est oula, c'est tout de suite, on fait les gros yeux. Pourquoi? Parce que ça fait écho à leur propre sexualité. Et le fait est que tous les adultes ne sont pas forcément justement en phase avec leur sexualité. Mais je précise quand même que parler sexualité à son enfant ou à son ado n'implique pas de parler de son intimité. Il ne s'agit pas de déballer ce qui se passe dans la chambre à coucher. Justement, la notion d'intimité, elle est essentielle. On peut aborder ces thèmes sans forcément parler de nos fantasmes, de notre libido. Ça n'appartient qu'à nous, en fait. Donc, cet espace d'échange, il devrait pouvoir se faire, mais effectivement, il faut déjà être en mesure, accepter d'entendre des choses qui peuvent effrayer, ne pas plaire. Mais encore une fois, les ados, ils ont leur langage, ils ont leurs interrogations. Et ce qui peut paraître parfois trash pour un adulte, c'est juste une interrogation qui à cet âge-là, c'est pas le même rapport, en fait, c'est pas le même rapport à la sexualité, c'est pas le même vocabulaire. Donc il y a un décalage qui est pas toujours simple aussi à ce niveau-là. Après, ce qui est regrettable, c'est que moi, par exemple, j'adorerais vous dire demain je vais lancer une émission justement sur ma nouvelle chaîne Twitch pour faire une radio libre. C'était mon but de faire une radio sur une émission sur la sexualité. Je l'ai lancé, d'accord, mais là, qu'est-ce qu'on me dit? Mais on n'a pas le droit de parler de sexualité pour les moins de 18 ans, parce que là, on est banni. sur tous les réseaux sociaux. Et c'est dommage parce que les réseaux sociaux sont justement les plateformes idéales pour parler justement bah, cette communauté de moins de 18 ans. C'est, il faut aller leur parler là où ils se trouvent, donc à l'école ou sur Internet. Le problème, c'est que là-dessus, bah, y a un gros tabou, une grosse interdiction qui est posée, bien souvent parce que les réseaux sociaux sont américains. Et alors là, si on parle de sexualité au moins de 18, c'est considéré comme de l'incitation à la débauche. De la même manière que bien souvent, et là, c'est quand même en train de changer, mais le porno, c'est bien souvent le mot interdit parce que bah, certains adultes ou certains, voilà, certains parents vont partir du principe que si on parle de pornographie, de sexualité à leurs enfants, et ben c'est une manière en fait finalement de passer à l'acte et donc de les détourner du droit chemin. Donc il y a beaucoup de boulot à faire, il y a une anxiété générale en fait, on l'a vu avec le confinement, hein, ça peut réveiller certaines peurs. Donc je crois qu'on doit tous bosser, nous, en tant qu'adultes, sur nous-mêmes déjà, si on veut être apte à accompagner les plus jeunes et effectivement à les amener à s'épanouir pour devenir à leur tour des adultes qui soient tranquilles par rapport à leur sexualité.
Merci pour cette précision. Autre question qu'on a reçue, je vois que le temps file, donc on va essayer d'être concise, mesdames. Non pas que ça soit pas intéressant, hein, mais vous savez,
ouais, ça va trop vite.
Je suis le gardien du temps. Autre question reçue sur la boîte mail, cette fois-ci d'un papa, qui est papa de deux jeunes adolescentes de 17 et 15 ans, et qui nous dit qu'avec son épouse, ils ont du mal à parler de sexualité, ce qu'on vient de dire, dans la famille. Et qu'en même temps, ils aimeraient pouvoir protéger leur fille, le mot est important, car il sait que tous les garçons regardent du X et qu'il a peur de ce qui pourrait arriver à ses filles. Donc là, en fait, se cache derrière la question, et ça rejoint un peu la question du jour. Donc comme le temps passe vite, on va faire un tir groupé. La question du jour était, est-ce que le X peut avoir un impact sur la construction dans sa sexualité, dans son rapport aux autres? Et c'est un peu, en fait, ce que se posait, me semble-t-il, si je ne trahis pas sa parole et sa pensée, ce papa.
Mmh. Bah, et effectivement, hein, je pense que... d'abord, c'est pas les garçons regardent le porno et les filles n'en regardent pas, hein, quand même. On n'oublie pas quand même que les filles en regardent aussi. Donc, on peut avoir peur pour les filles, mais peur de quoi, déjà? L'idée, c'est... voilà. Alors, est-ce qu'il y a un impact? Bien évidemment qu'il y a un impact à partir du moment où ça devient... Une conduite addictive. Mais le fait de voir passer une image ou deux et de pouvoir en discuter, il n'y a pas d'impact particulier. Par contre, ça peut être l'occasion de discuter de la place des femmes et de la place des hommes dans notre société, dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre sexuelle, la place de chacun. Ça peut être l'occasion de discuter du consentement à travers peut-être les peurs que les parents peuvent avoir, comme tu le dis, de dire on va protéger nos filles, mais l'idée, c'est pas de leur mettre un carcan et qu'elles avancent masquées. Enfin, quoique aujourd'hui, on avance un peu masquées, mais différemment. Mais l'idée, c'est qu'elles avancent avec les outils du consentement. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai envie, je dis oui ou je dis non. Et c'est très compliqué, tout ça. Et moi, je pense que les garçons comme les filles, parce qu'il ne faut pas laisser les garçons de côté ou les stigmatiser en disant c'est les mauvais parce qu'ils regardent la porno et après, ils sautent sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas vrai. Ils ont aussi leurs difficultés. Les garçons comme les filles, leur donner les outils, les étayer suffisamment avec des outils du consentement, les outils aussi de mon corps, c'est quoi? Il m'appartient, mais il m'appartient comment? Qu'est-ce que j'en fais? Ces fameuses notions de plaisir qu'on utilise chez les petits et qu'on oublie chez les ados, eh bien, les réadapter doucement pour leur permettre à un moment donné que même s'il y a des images un peu trash qui traversent leur horizon, on parle de la porno, je vais faire juste une parenthèse, il y a des tas d'images assez trash qui traversent les journaux de 20h et ça pose moins de questions. Donc là, je vais fermer la parenthèse. Mais c'est vrai que si ces images trash de la porno traversent leur vision, eh bien, elles ne laisseront pas d'impact. Par contre, elles vont laisser des impacts si on laisse des ados s'enfermer dans le visuel avec la porno en tête-à-tête, unique, éventuellement avec des attitudes masturbatoires complètement addictives et qui, au contraire d'aller chercher du plaisir, n'apportent en fait que de la souffrance, de la douleur et puis un enfermement.
Mais de la frustration interne.
Mais c'est, ouais. c'est là que ça peut être traumatisant quand une expérience reste sans réponse, en fait. Donc après, c'est vrai que je pense que c'est important. Le consentement, c'est essentiel, effectivement. Et puis de comprendre aussi qu'elles sont dans une phase d'exploration et que dans cette exploration, il est probable qu'elles aient des expériences parfois qui vont parfois les décevoir, les étonner, mais qu'elles se sentent libres, en tout cas, effectivement, toujours de dire, bah non, là, j'ai plus envie. Donc sans forcément rentrer dans les détails, il est possible de parler de sexualité avec ses ados, mais toujours de leur rappeler qu'il s'agit d'une expérience intime qui est censée leur apporter du plaisir. Alors, il y a toute la partie préventive par rapport à la santé, bien sûr, mais de rappeler que finalement, à partir du moment où l'acte sexuel n'est pas vécu pour dans le cadre de la reproduction pure et simple, c'est censé être du plaisir. Et donc, c'est à elles aussi d'être attentives à ça et de ne pas hésiter à dialoguer avec leur partenaire pour leur dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, même si c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut, parce que forcément, quand on découvre, eh bien, on essaye. Après, je pense que la réflexion d'un papa par rapport à ses filles, hein, ça peut être aussi très concret par rapport aux pratiques sexuelles. J'ai pas envie que ma fille se retrouve à faire ça. Bah oui, oui, bien sûr que c'est douloureux pour un parent d'imaginer ses petits dans des situations un peu. Alors, ne soyez pas masochiste et commencez pas à imaginer toutes les mises en scène possibles. Je pense qu'il faut, voilà, il faut ramener au consentement et au bout d'un moment accepter que votre enfant peut avoir ses propres désirs comme vous pouvez avoir les vôtres. Et que finalement, c'est ça être adulte, c'est devenir autonome, donc lui accorder cette possibilité d'explorer et de lui rappeler en fait que c'est son corps, qu'elle est responsable de ce corps-là, et donc c'est à elle d'en prendre soin et de toujours surtout choisir avec qui elle a envie de partager ces expériences-là et qu'elle mérite d'être avec quelqu'un qui prendra soin d'elle. Et que si cette personne ne respecte pas ses envies, ses désirs, alors peut-être qu'il faut tout simplement choisir une meilleure relation.
J'en profite d'ailleurs, puisque la notion du coup, le mot consentement est revenu beaucoup dans nos propos depuis le début et c'est logique. J'en profite pour rappeler que sur le site de l'Open, dans les dossiers de l'Open, vous pouvez retrouver un dossier spécial pornographie, au sein duquel vous retrouverez notamment une émission qu'on a tournée ensemble, Céline, avec Christian Spitz, le doc, qui s'appelle « Si, sex and sec », où la question du consentement est largement développée, mais également des modules qui sont en libre accès pour tous les parents et pour tous les professionnels qui souhaiteraient s'emparer du sujet, avec des adolescents, des modules que vous pouvez retrouver sur le site Lumni, qui est donc le nouveau site France TV Éducation, avec des fiches pédagogiques qui ont été réalisées en partenariat entre l'Open et la Ligue de l'enseignement et qui pourront vous apporter quelques réponses et quelques éléments pour déclencher la prise de parole et la réflexion, parce que je crois aussi, et nous qui avons fréquenté pas mal d'établissements scolaires dans nos démarches, que quand on regarde et qu'on questionne les adolescents, ce dont ils souffrent le plus, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace tellement de parole qui soit permis soit dans les familles, soit dans les établissements scolaires, et on voit très bien qu'au niveau du climat scolaire, notamment quand une infirmière scolaire, et il y en a plein qui font super bien ce travail, ouvre un groupe de parole, un espace de parole entre midi et deux pour aborder les questions de sexualité, en général, ça se bouscule un peu au portillon et ça fait beaucoup de bien au sein de l'établissement scolaire et ça apaise beaucoup de tensions chez les ados. Enfin, moi, en tout cas, partout où on a pu intervenir, on s'est rendu compte que c'était un vrai besoin. On approche de la fin de l'émission, on est même déjà un peu à la bourre. Je voulais juste vous demander quelques choses à faire et ne pas faire, un petit peu pour les parents ou les professionnels qui sont présents aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, faut-il éviter de faire ou vaut-il mieux faire avec ses enfants, ses ados, pour les préparer à l'exposition à la pornographie, au niveau d'un point de vue préventif, et ou les préparer à vivre une sexualité épanouissante et respectueuse d'eux-mêmes et des autres.
Alors moi, je commencerai par le pas faire, c'est dénier. Dénier le fait, enfin ne pas voir, ne pas entendre et refuser de parler. Et voilà, moi je pense.
Donc là, tu t'adresses aux parents et aux professionnels, les deux ?
Moi, je vais m'adresser aux deux, je vais m'adresser aux adultes, c'est-à-dire que le déni, ne pas entendre, ne pas voir et ne pas parler, je pense que c'est vraiment des choses que je mettrais dans le négatif, quoi. C'est éviter ces postures-là. Plus la panique et la dramatisation qui apporte rien, parce qu'on n'est pas des acteurs dans ce cadre-là, on est dans la vraie vie. Donc, voilà. Par contre, moi, ce que je propose aux gens, c'est vraiment de s'apaiser, de parler, de mettre des mots sur les angoisses et des adultes et des jeunes et des enfants. Plus on mettra des mots, plus on protégera. Et cette notion du consentement, pour moi, elle est essentielle. Parce qu'entre dire oui et dire non, il y a toute une zone grise dans laquelle on navigue, qui est extrêmement complexe et qui se construit au fur et à mesure de la vie, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, pour devenir un adulte qui sait à peu près avoir cette liberté de pouvoir dire oui ou non. Je regarde de la porno, je fais de la porno, voilà. Mais surtout, je m'épanouis et je prends plaisir dans ma sexualité, avec moi-même et avec les autres. Donc, voilà, moi, c'était les messages importants. On s'apaise, on se calme et on parle.
Donc, on évite la panique souvent qui empare les adultes quand on parle de sexualité, qui les met mal à l'aise. Et on en a parlé souvent en raison du fait qu'ils ont du mal à faire la différence entre parler de la sexualité avec un S majuscule et parler de leur sexualité ou de la sexualité des ados. Ce qui n'est absolument pas ce qu'attendent leurs adolescents et ce qui n'est pas à l'endroit précis où se situe l'enjeu. Et sortir du déni quant au fait que c'est tout à fait légitime qu'il y ait des questionnements. Et aussi peut-être, parce que ça se respecte aussi, je pense, c'est important de le rappeler, me semble-t-il, Claude, et je sais que tu es d'accord, c'est de dire que quand on est un professionnel ou un parent et qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet, il existe tout un tas de ressources, j'en ai cité quelques-unes. Il y a les centres de planification, il y a également... On a beaucoup critiqué Internet, mais je pense qu'il est aussi important de dire que la solution passe aussi parfois par Internet et se met à exister quand même un certain nombre d'initiatives. On en a cité une à l'instant sur le chat, notamment le SpeechBot, qui est un bot qui répond aux questions des ados sur la sexualité sur Instagram. Mais il y a aussi des comptes Instagram qui sont souvent faits d'ailleurs par des jeunes filles qui sont formidables et qui donnent pas mal de réponses à ces questions-là. Céline, tu voulais ajouter peut-être quelque chose, me semble-t-il, quand même.
Oui, effectivement, de ne pas créer la panique, de dramatiser pour ne pas non plus culpabiliser l'ado sur l'acte masturbatoire qui, en soi, est très sain, en fait. Genre, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est très sain, c'est mon avis, parce que c'est justement le premier contact, la première exploration, normalement, dans sa sexualité. On parle souvent de l'activité masturbatoire des ados garçons, mais les filles aussi, c'est un peu mis de côté, mais c'est important parce que c'est l'occasion justement de découvrir son corps. Et ça, pour le coup, je pense qu'il faut, faut faire attention à ne pas confondre l'exposition au film X et donc à être vigilant et à apprendre à prendre de la distance, à inviter au décryptage, et puis l'exploration de son corps qui est très saine. Donc si vous surprenez votre ado alors qu'il est dans sa chambre, en fait, peut-être qu'il vaut mieux frapper à la porte avant. C'est une situation qui peut prêter à sourire, mais qui peut être traumatisante pour certains ados qui après vont se dire j'ai pas le droit de le faire, c'est mal, faut que je me dépêche. Moi, parmi les hommes qui me consultent en séance, il y en a qui sont restés là-dessus, c'est mal, il faut que je me dépêche, et qui du coup après se retrouvent avec des troubles dans leur sexualité parce qu'ils ont intégré cette culpabilité. Pour les femmes, ça va être aussi je ne peux pas m'autoriser à avoir du plaisir. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter l'intimité de l'adolescent, lui laisser un espace, tout comme nous adultes, on a besoin d'une autre, et effectivement ne pas rentrer dans un, même si vous avez le droit de ressentir de l'inquiétude, attention à modérer vos comportements pour ne pas créer justement de la honte chez l'ado qui malheureusement risque ensuite de perdurer dans sa vie d'adulte, quoi. Et puis surtout, ne pas hésiter à contacter un professionnel si quelqu'un en externe, s'il s'est passé quelque chose de traumatisant. Ça peut être utile aussi de faire accompagner votre ado par quelqu'un qui pourra aussi l'aider. Quelqu'un de neutre, qui est extérieur au cercle familial.
Et il y a aussi une très bonne ressource, en effet, que nous rappelle Ludivine sur le chat, qui s'appelle Sexy Souci et qui est une émission qu'on peut retrouver en ligne sur France TV de mémoire ou sur Slash, je ne sais plus. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non ? On s'arrête là, malheureusement, le temps est passé.
Non, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions. Enfin, on aura d'autres occasions de nous exprimer.
Ça pourrait durer des heures, tu le sais bien. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Je sais que le temps est passé un peu vite et que c'est toujours un peu frustrant. Merci à toutes les internautes qui étaient connectées aujourd'hui. Merci aux équipes de Google d'avoir accepté qu'on parle de ce sujet.
Oui, merci.
Il faut le saluer.
C'est important de le dire.
Parce que sur une plateforme américaine, c'est pas simple. Notamment, nous, nos posts sur Facebook ont été censurés. Donc, il faut le rappeler quand on a mis le mot porno dans le titre de l'émission. Donc, merci à Google pour leur confiance et puis de nous avoir laissé parler de ces sujets parce que la solution passe aussi par le numérique. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine petite causerie. Ça sera déjà l'épisode 6. Et nous parlerons de la violence dans les jeux vidéo. Pour celles et ceux qui voudraient poser leurs questions, vous avez pour ce faire une adresse email à votre disposition, causerie@open-asso.org. Claude, Céline, à très bientôt sur le terrain, qu'on puisse enfin se revoir et faire des interventions auprès du grand public ou des professionnels. Merci infiniment, passez une bonne fin de journée. Et les ateliers Google continuent d'ici quelques instants. Merci, bonne fin de journée, à bientôt.
Merci.